Chapitre 16e, le château de Drachenfeld. Le château de Drachenfeld, où de nouveaux hasards attendaient Adrienne et Diane, tenait tout à la fois de la citadelle et du couvent. On y voyait des galeries et des salles de bal comme dans un palais, des casemates, des créneaux, des courtines, un donjon comme dans un château fort, des chapelles, un cloître, des cellules comme dans un monastère. Pour que tout répondît à ce triple caractère dans cette singulière habitation, on pouvait, en se promenant au hasard dans les appartements et les jardins, rencontrer des gardes portant l'épée et le mousquet, des pages vêtus de velours et de satin, de belles personnes qui maniaient l'éventail ou touchaient du luth, des aumôniers et des gens de l'église pieusement enfoncés dans quelques méditations. Au bout d'un mois, les deux cousines furent au courant de la vie qu'on menait à Drachenfeld. Le soir appartenait au bal et aux divertissements de toutes sortes, pour lesquels l'imagination de Madame Digomère se montrait singulièrement inventive. On s'adonnait le matin à des exercices de religion. S'il faisait beau l'après-midi, on prenait le délassement de la promenade sur de belles pièces d'eau ou dans de profondes forêts percées de larges avenues. On chassait aussi. Mais si le temps était à la pluie, on se rendait dans quelques chapelles où un bon moine s'abandonnait à toute la chaleur d'une exhortation religieuse. Certaines fois, et quand Madame Digomère avait mal dormi, la musique remplaçait le sermon. Il ne paraissait pas que l'inconsolable Thécla regrettât beaucoup Wallenstein, ni qu'elle donnât une large part de son temps à la mélancolie, mais c'était peut-être le séjour de la campagne qui en était cause. Un père franciscain avait la charge d'extirper du cœur de Mademoiselle de Souvigny et de Mademoiselle de Pardaillan les racines que les doctrines abominables de l'hérésie y avaient fait pousser. Il les persécutait benoîtement. Le gouvernement du château était dévolu à un homme maigre, hâve, couleur de citron, sinistre, patibulaire. La première fois qu'elle l'aperçut, Mademoiselle de Souvigny frissonna. Elle gardait le souvenir de ce profil menaçant dans un coin de sa mémoire. Quand elle entendit prononcer le nom de Matthäus Horoscop, elle fut glacée de terreur. « Ah, l'homme de Bergheim » s'écria-t-elle. C'était en effet Matthäus Horoscop qui, vaincu au château de Rabnest, voulait prendre sa revanche au château de Drachenfeld. Les hommes lui avaient échappé, mais les femmes lui restaient. Il avait même une double offense à punir, et Madame Digomère pouvait compter sur son dévouement. On se rappelle que grâce aux précautions prises par Carquefou, Matthäus Horoscop était resté suspendu à ce crochet qui avait porté quelque temps le corps endolori de Renaud dans la chambre verte du château de Rabnest. Matthäus n'avait obtenu sa délivrance que quelques heures après le départ des fugitifs. Le gardien chargé de porter sa maigre nourriture aux captifs avait trouvé le maître de Rabnest blême, glacé, fond de rage et de douleur. Celui-ci ne perdit pas un temps inutile à poursuivre des cavaliers qui avaient sur lui l'avance d'une journée et courut hardiment tout raconter à Jean de Werth. L'explosion de sa haine et de sa fureur fut telle que Jean de Werth comprit sur le champ que c'était un homme dont on pouvait tirer le meilleur parti. Bien loin de le punir, il lui donna une gratification et l'adressa à sa complice, Madame la baronne Digomère, avec une lettre qui ne contenait que ces mots: « Voilà un coquin que je vous recommande. » Il n'en fallait pas davantage pour engager la baronne à prendre Matthäus Horoscop à son service. Quand il y trouvait son intérêt, le seigneur Matthäus était d'une franchise terrible. Il ne cacha rien à Madame Digomère des circonstances qu'il avait fait entrer dans la vie de Renaud, à Bergheim comme à Rabnest. Ce qu'il venait de faire, loin de révolter la baronne, lui donna une idée de ce qu'on pouvait attendre d'un tel homme dans l'occasion. Ces deux haines se comprirent de prime saut. Aussitôt que le départ de Wallenstein pour l'armée impériale fut décidé, et en se déterminant à quitter la résidence de Prague pour celle de Drachenfeld, Madame Digomère prit immédiatement la résolution d'en confier le commandement à Matthäus Horoscop. Maîtresse de Mademoiselle de Souvigny et de Pardaillan, elle était à Drachenfeld comme le chasseur qui tient en cage une jolie chanterelle et attend que les perdrix viennent se faire tuer. Les perdrix, cette fois, s'appelaient Armand-Louis et Renaud. Elle était sûre que personne ne veillerait mieux sur la gage que Matthäus Holzkopf. Un sourire hideux rendit plus effrayante encore la physionomie de Matthäus quand il prit le gouvernement du château. « Les imbéciles » murmura-t-il. « Ils m'avaient entre leurs mains, ils pouvaient m'étrangler, et ils m'ont laissé vivre !» Puis tout à coup, frappant du pied avec violence, « Mais cette bêtise-là, ne l'ai-je pas commise aussi ? » reprit-il. « Ah, cette fois du moins l'expérience me servira !» Dès les premiers jours de son installation au château de Drachenfeld, Matthäus Holzkopf prit à part Mademoiselle Digomère. « Mon devoir est de vous parler avec franchise. Permettez-moi, Madame la Baronne, d'aller au fond des choses. Certes, vous n'aimez pas celle que vous appelez Madame la Comtesse de Mummelsberg. »« Oh non !» murmura Thécla. « Mais il est une autre personne pour laquelle vos sentiments ont encore plus de vivacité. J'ai nommé M. Renaud de Chauxfontaine. Est-ce vrai ?»«
C'est vrai. » »«
Pourquoi alors vous obstinez-vous à tenir Mademoiselle de Pardaillan secrètement enfermée ici, comme la lumière sous le boisseau ? Que ne publiez-vous au contraire et à son de trompe, s'il le faut, qu'elle est à Drachenfeld et qu'elle est votre prisonnière ? Il la courra. Et n'est-ce pas là précisément ce qu'il nous faut désirer ? Qu'il vienne seulement, il ne viendra pas seul, et du même coup, Madame la baronne Digomère, Jean de Werth et Matthäus Holzkopf, leur indigne serviteur, seront vengés. Il suffira, pour opérer ce miracle, que M. de la Guerche et M. de Chauxfontaine se montrent à une portée de fusil de ce château. » Le regard que Matthäus jeta à Mme Digomère la fit frissonner. « Ah, vous êtes un terrible homme !» dit-elle. « Non, madame, je suis un homme logique et tiens surtout à mériter la bonne opinion que Mgr Jean de Werth a de mon humble personne. « Faites à votre guise, vous avez carte blanche, » dit Thécla. « Alors, je réponds de tout. » Ce jour-là même, on permit aux deux cousines d'écrire à M. de Pardaillan. Il arrivait quelquefois à Mme Digomère de s'absenter pendant plusieurs jours. Elle se rendait alors au camp impérial en grand mystère. Nul ne le savait que Matthäus, qui restait maître absolu du château, et y exerçait une autorité souveraine. Il avait des espions qui battaient le pays tout alentour, éclairait les routes à 10 lieues à la ronde et lui rendait compte de tout ce qui se passait. Ils avaient ordre de répandre habilement dans les auberges les noms des deux prisonnières, pour que ce ne fût bientôt plus un secret pour personne. Quelque chose en arriverait peut-être aux oreilles de M. de la Guerche et de Renaud et les attirerait à l'ombre des tourelles de Drachenfeld. C'est là que Matthäus les attendait. Le départ de la baronne suspendait les fêtes. Plus de transe, presque plus de musique, mais des sermons en abondance, des oraisons et des conférences pieuses, durant lesquelles le franciscain s'efforçait de convertir ses ouailles. Après de longues journées passées en controverse, s'il n'obtenait rien, le digne moine plaçait dévotement ses bras en croix sur son abdomen rebondi. « Le diable tient bon, » disait-il, « mais je ferai tant que je finirai bien par l'exorciser. » Et toujours roulant sur ses courtes jambes, toujours souriant, toujours bénissant, il continuait ses prédications. De nouvelles de M. Daguerche et de M. de Chauxfontaine, on n'en avait point. En l'absence de Mme Digomère, la police intérieure, en quelque sorte intime et domestique du château, appartenait à une dame cérémonieuse et formaliste qui avait la taille d'un mousquetaire, des cheveux jaunes, des yeux pâles, la tête carrée, les jambes d'une autruche, et dont l'existence se passait à embarrasser la vie d'autrui de 1000 petites difficultés. Avec elle, chaque heure avait son emploi, et nulle puissance humaine ou nul événement ne l'aurait déterminée à en changer la destination. Madame de Liefenbach n'avait qu'un dogme, la règle, et qu'une foi, l'étiquette. Elle ne parlait jamais qu'à voix basse et avec la douceur du vent qui soupire. Mais sous cette douceur apparente, il y avait l'entêtement du mulet. Rien ne lui échappait. Ses longues jambes la promenaient partout et ses yeux, d'un bleu indécis et comme effacés, avaient des regards de lynx. Mademoiselle de Souvigny et de Pardaillan étaient placées sous sa surveillance spéciale. Madame de Liefenbach ne leur permettait pas une minute de repos. Ce n'était que la nuit qu'elles avaient la permission de causer librement, et encore, n'était-ce point aisé, leur chambre étant séparée par une galerie. Aussi longtemps que durait le jour, la bonne dame, vêtue d'une robe à l'ancienne mode, les instruisait des différents degrés de respect qu'il faut accorder aux personnes de cour, suivant le rang qu'elles occupent dans la noblesse. Elle variait ses petits discours par les traits sur l'étiquette qui était en usage dans la capitale de l'électeur de Bavière, et des oraisons sur les perfections de la grâce et les mérites de la pénitence. Par des détours habiles, elle prenait texte de ses conférences pour insinuer aux deux cousines que M. le comte de Pappenheim et M. le baron Jean de Werth feraient leur bonheur dans ce monde et assureraient leur salut dans l'autre. « C'est toujours le même air, » murmurait Diane, qui n'écoutait pas. « Et les mêmes paroles, » ajoutait Adrienne. Une des prétentions de Madame de Liefenbach était de faire croire à Mademoiselle de Souvigny et de Pardaillan qu'elle n'était point prisonnière. Captive, allons donc, qui pouvait répandre de tels bruits calomnieux? N'avait-elle pas l'une et l'autre toute faculté de se promener dans les jardins du château, d'y cueillir des fleurs, d'y manger des fruits? Ne les voyait-on pas dans les salles d'apparat les jours de concert et en toilette de bal les soirs où l'on dansait? Si l'on tenait à ce qu'elles fussent accompagnées de personnes graves et silencieuses, ce qu'il n'était pas séant à des demoiselles de qualité de se promener seules. Et si on ne leur permettait pas de sortir de l'enceinte de Drachenfeld, c'est que toutes sortes de gens grossiers allaient et venaient dans la campagne. Tout ce qu'on faisait était à cette seule fin de garantir leur repos dans ce pur asile de la vertu. Quand Madame Digomet revenait à Drachenfeld, les choses prenaient un autre tour. Les jeunes gentilshommes voyaient s'ouvrir pour eux les portes revêches du château, et plus d'un s'appuyait galamment au fauteuil de la charmante Thécla, tandis que la viole, le théorbe et le luth remplissaient les appartements de sons mélodieux. Mais Adrienne et Diane n'y perdaient ni un sermon du franciscain, ni une visite de Madame de Liefenbach. À mesure cependant que le temps s'écoulait, le coloris de la santé s'effaçait de plus en plus des joues de Diane aussi bien que de celles d'Adrienne. Les jours succédaient aux jours, les semaines aux semaines. On avait vu le printemps, on voyait l'été. De cruelles insomnies les dévoraient. On ne les entendait plus chanter ni rire. Quand elles causaient, elles n'osaient pas se faire part de leurs inquiétudes. Et lorsqu'elles s'embrassaient le matin, après de longues heures données aux larmes, elles parlaient l'une et l'autre du sommeil qui les avait caressées et du repos qu'elles avaient goûté. Elles n'osaient pas s'arrêter à cette pensée que M. de la Guerre chez Renaud tenterait de les délivrer. Dieu savait à présent, par Adrienne, quel homme c'était que ce Mathéus, et dans la crainte que cette faculté qu'on leur avait laissé décrire à M. de Pardaillan ne cachât un piège, elle n'avait pas tout dit. Sur ces entrefaites, une de ces suspensions d'armée, comme on en rencontre tant dans l'histoire des guerres anciennes, arrêta pour quelques jours les hostilités entre les deux armées belligérantes, qui n'avaient pas cessé de combattre depuis Leipzig. Combien de braves officiers qui ne répondaient plus à l'appel du clairon, combien de soldats ensevelis à la hâte sous une poignée de terre. Personne ne savait quand ni comment finirait cette guerre commencée depuis tant d'années et où les passions religieuses se mêlaient aux intérêts de la politique. M. de la Guerre chez M. de Chauxfontaine avaient eu leur part de la gloire et des dangers communs, mais ils mettaient au nombre des jours perdus ceux qu'ils n'employaient pas à délivrer Mesdemoiselles de Souvigny et de Pardaillan. Toutes leurs tentatives jusqu'alors avaient été inutiles ou, ce qui revenait au même, interrompues par les impérieuses nécessités de la guerre. Les intervalles étaient trop courts entre les sièges et les combats pour qu'ils pussent entreprendre une expédition au cœur même des provinces occupées par l'ennemi. Ils ne négligeaient rien, cependant, mais ils ne savaient rien. Et dans les périlleuses pointes que tour à tour, un jour à droite, un jour à gauche, ils entreprenaient, rien ne leur avait appris encore quelle ville ou quelle forteresse cachait derrière ces murailles celle pour qui Armand-Louis et Renaud eussent versé leur sang goutte à goutte. À la première nouvelle qui circula dans le camp de l'armistice conclu avec le général en chef des troupes impériales, l'espoir renaquit dans le cœur des deux frères d'armes. Ils se présentèrent immédiatement chez Gustave Adolphe et lui demandèrent la faveur d'être envoyé auprès de Wallenstein pour négocier l'échange des prisonniers. « Nous savons depuis peu de temps, » dit M. de la Guerche, « et cela par une lettre adressée à notre vieux compagnon d'armes, M. de Pardaillan, que les deux captives ont été conduites à Prague auprès du duc de Friedland. C'est peut-être pour nous l'unique occasion de voir Mademoiselle de Souvigny et sa cousine. Peut-être saurons-nous du moins à quel prix nous devons les conquérir. » Sans répondre, le roi écrivit et signa une dépêche qui donnait à M. de la Guerche la qualité de ministre plénipotentiaire, puis, l'embrassant, « Partez, et partez sur le champ. Ma conscience me reprocherait chaque minute que je vous ferais perdre. » Armand Louis, cependant, et M. de Chauxfontaine ne voulurent pas s'éloigner avant d'avoir vu M. de Pardaillan. « Vous nous aviez permis de nous dévouer au salut de vos deux filles, » dit Armand Louis. « Dieu nous les avait données, Dieu nous les a reprises. À présent, nous n'aurons plus ni trêve ni repos que nous ne vous les ayons rendues. » M. de Pardaillan leur ouvrit les bras à tous deux. « Ah, si je ne vous avais pas, que l'espérance serait loin de mon cœur. » Armand Louis et Renaud lui firent part de la résolution qu'ils avaient prise. « Le duc de Friedland est à Nuremberg, » dit M. de la Guerche. « Nous irons à Nuremberg. » « Et si ma fille, si Adrienne n'y sont pas, s'il ne consent pas à vous les rendre ?»« La diplomatie morte, nous crierons « Vive l'épée !» » s'écria Renaud. Quelques larmes apparurent sur les joues ridées du vieux gentilhomme. « Ah » dit-il, « l'épée m'a trahi, hélas, comme elle vous a trahi tous les deux. »« Dieu est là-haut, Dieu nous voit et nous juge. Ayez bon espoir, » reprit Renaud, « j'en fais le serment. Aussi longtemps qu'un cœur battra dans ma poitrine, aussi longtemps que ma main pourra tenir ce fer, j'emploierai ce bras et ce cœur à la délivrance de Mademoiselle de Pardaillan. » L'exaltation de M. de Chauxfontaine toucha le vieillard. « Revenez avec ma fille, et c'est un père qui vous recevra. » À ces mots du vieux capitaine, une joie immense inonda le cœur de Renaud. Il lui sembla que le feu extraordinaire qui avait rempli d'une force invincible l'âme des anciens preux, les Roland, les Galaor, les Cid et les Tancrède, coulait dans ses veines. Rien ne lui parut plus impossible, et baisant la main que M. de Pardaillan lui tendait, « Si votre fille ne vous est pas rendue, s'écria-t-il, dites que je suis mort. »